Pas un jour ne passe sans que je me noie dans cette peur. Et si je n'étais pas à la hauteur dans mon devoir vis-à-vis de mon Créateur?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.
Marhaba, bienvenue dans le podcast Opération Firdaus, le podcast pour la jeunesse musulmane qui sont à la recherche de l'excellence.
Nous sommes deux sœurs en Allah et amies dans la vie de tous les jours. Notre objectif commun à travers ce podcast est d'inciter la communauté musulmane à la réflexion sur des sujets de notre quotidien, en se remettant tout simplement, ou non, en question, pour arriver à la destination finale, le plus haut degré du paradis, le Firdaus. Que ce soit dans le domaine professionnel, familial, social, personnel ou spirituel, nous allons balayer tous les sujets en lien avec notre quotidien.
Alors si vous êtes dans l'optique d'améliorer votre personne, votre pratique, d'exceller dans tout ce que vous entreprendrez vis-à-vis de notre magnifique et belle religion qui est l'islam, alors vous avez toqué à la bonne porte. On vous souhaite une agréable écoute, Inch'Allah, en espérant que cela puisse vous profiter. Barakallahu fikoum.
Qu'Allah vous couvre de sa bénédiction.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, la team Opération Firdaus, on espère que vous allez bien. C'est vrai, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
On ne s'est pas parlé.
Ouais, et tout.
Ça fait longtemps.
J'espère que ça va, vous allez bien. Je vais vous dire, mais où est-ce qu'elles sont passées et tout. En plus, vous êtes gentils, vous avez envoyé des messages pour savoir quand est-ce qu'on reprend et tout. Mais c'était vraiment indépendant de notre volonté.
Clairement, indépendant de notre volonté parce que on a eu un petit événement qui n'était pas prévu, qui est la mort. La mort qui est survenue dans notre entourage. Et juste petit rappel pour dire que vraiment avant que cet événement arrive, on avait absolument tout planifié avec Khadija. On avait vraiment tout planifié, que ce soit les enregistrements, les postes, la date, absolument tout. Et sachant que c'est quand même des bonnes choses hein,
en
soi. Mais Allah nous a montré que nous avons nos plans, mais qu'il a ce qu'il a destiné pour nous, ce qu'il a prévu. Donc vraiment, ça fait une petite piqûre de rappel pour dire qu'on a beau tout planifier dans nos vies, que ce soit court, moyen et long terme, c'est indépendant de notre volonté, quoi.
Exactement.
Voilà.
Moi, en tout cas, alhamdoulilah.
Ouais.
J'allais dire oui, mais alhamdoulilah, genre tu t'es remise de tes... Enfin...
Des événements, oui, oui, parce que la mort est le meilleur des rappels. Hein. C'est...
Surtout quand c'est quelqu'un de proche.
C'est ça. Et puis, de toute façon, elle arrive, on a notre moment de souffrance, hein, évidemment, et qui est sur toute une vie. On prend les leçons qu'on a tirées de cette épreuve, on s'arme et puis on recommence à reprendre notre vie de la meilleure des manières, en tout cas mieux qu'avant cet événement arrive en tout cas.
Et c'est un très bon rappel, hein, comme tout plein de choses, comme là on a eu le tremblement de terre qui a eu aussi en Turquie et en Syrie. C'est vrai qu'on en parle beaucoup au début, mais après, plus les jours passent, moins on voit de partage, de posts, etc. Du coup, on s'en détache facilement alors qu'ils traversent des moments difficiles et ça devrait nous pousser à nous rappeler d'Allah, qu'on va retourner à Allah un jour. Et du coup, qu'Allah leur facilite et apaise leurs douleurs. Nous sommes tous des frères et sœurs et on se doit d'être solidaires dans la communauté. Il ne faut pas qu'on les oublie dans les prières. Et c'est pareil pour tous les autres peuples opprimés qui sont en détresse. On pense à eux dans nos prières.
Exactement.
On essaie de faire le maximum à notre échelle.
Tout à fait.
Et du coup, voilà, pour la petite parenthèse, on vous a expliqué notre moment d'absence, parce que c'est vrai que ça fait presque un mois. Mais alhamdoulilah, nous sommes de retour. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet, dans cet épisode, nous allons raconter un témoignage concernant la prière. Nous allons aussi expliquer tous les bienfaits que regroupe la prière. Et pour finir, nous verrons qu'au-delà du fait que la prière soit une obligation, c'est surtout un cadeau de la part de notre Seigneur. Donc c'est parti, on va commencer par nos témoignages concernant notre cheminement dans la prière et on va commencer par toi Mariam, ça te dit ?
Est-ce que j'ai le choix ?
Non.
C'est parti. Bon bah concernant ma relation avec la prière, alors moi faut savoir que j'ai grandi dans une famille de confession musulmane et que j'ai eu une éducation religieuse. Et en parallèle j'ai toujours vu mes parents prier, mes grands-parents d'eux-mêmes, ma famille de manière générale. J'ai suivi des cours d'arabe étant plus jeune, durant lesquels j'apprenais des sourates, les dernières du Coran que l'on connaît presque tous. Hein. Et pour ce qui est de la prière, je priais lorsque l'on était en groupe et que ces personnes priaient. Ensuite, on m'a expliqué que la prière était obligatoire pour les musulmans. Pas grand-chose de plus. On m'a donc expliqué l'importance de la prière en insistant vraiment sur le caractère obligatoire de celle-ci. Seulement, voilà, comme on l'a dit dans la première partie, la prière, elle est bien plus qu'une obligation et l'enseigner à un enfant de cette manière ne va pas forcément en fait le conduire à l'accomplir avec le cœur et de manière assidue. Donc en primaire et au collège, je priais très peu, quelques fois par an on va dire. Ni la prière, ni Allah n'occupaient mon esprit. Clairement, je n'y pensais même pas. Et lorsque mes parents me disaient d'aller prier, je faisais semblant d'y aller, mais en réalité, j'attendais que les minutes passent, assise dans un coin de ma chambre, donc Allah nous pardonne vraiment. Mais je mentais à mes parents en leur faisant croire que je faisais mes prières lorsqu'ils me le demandaient. Il y avait quand même au fil des années une légère, vraiment légère augmentation dans l'accomplissement des prières par an, on va dire. Le nombre, il augmentait vraiment timidement. Donc, arrivé au lycée, je priais donc un peu plus, mais toujours de manière bancale. Et les seuls moments où j'étais le plus investi dans la religion étaient bien évidemment la période du Ramadan. L'ambiance, entre guillemets, toujours de ce mois béni, me rapprochait de la religion et de la prière. Et à 18 ans, on va dire que je priais mes 5 prières obligatoires, mais hors de leur temps et sans amour pour celles-ci. J'étais donc devenue, on va dire, constante dans ma prière. Et c'est uniquement lors de ma deuxième année d'études d'infirmière que j'ai eu une sorte de déclic sur la prière dans son temps. Je ne saurais vous dire comment, mais je ne pouvais plus me permettre de rattraper mes prières chez moi. Chaque fin de journée, c'était plus possible pour moi. Le fameux 2-4-3-4, là, comme les gens le disent sur les réseaux sociaux, cet enchaînement, en fait, il ne devrait même pas être connu et assumé, parce qu'en réalité, c'est un grand péché de faire sortir la prière de son temps. Et une fois que je m'étais mise en tête le fait de prier à l'heure, une fois que mon cerveau avait assimilé cette information, plus rien pouvait m'arrêter. Je faisais toutes mes prières à l'heure. C'était devenu, en fait, inconcevable pour moi de ne pas faire mes prières de les sortir de leur temps. Donc, où que je me trouvais, je priais. Même parfois dans des endroits insolites. Et quand on y pense, faire sortir la prière de son temps, parce que l'on est au travail, c'est un paradoxe incompréhensible. Comment on peut se permettre de sortir une prière de son temps pour adorer le Créateur des cieux et de la terre, pour un travail que ce même Seigneur pourvoyeur nous a accordé? Cela n'a pas de sens, en fait, pour toutes les autres obligations d'ailleurs. Donc voilà, et depuis, alhamdoulilah, je ne dirais pas que je fais absolument toutes mes prières à l'heure à 100%, mais dans la majeure partie, je me débrouille en tout cas par tout moyen pour que ça soit le cas.
Ouais, qu'Allah nous facilite.
Amin.
Et c'est toujours aussi magnifique, hein. Bien que tu m'aies déjà raconté cette histoire, c'est comme si je découvrais à nouveau. Et c'est ça la richesse des témoignages, c'est toujours parlant et tu arrives toujours à t'identifier. En tout cas, merci d'avoir partagé ça et
je
Allah te récompense. Hein.
Je t'en prie, je vous en prie, Amin.
Et
tour.
Oui. Je vais parler. Alors, j'ai grandi dans une famille musulmane. Depuis petite, en fait, on m'a inculqué les valeurs de l'islam et très tôt, on m'a parlé d'Allah. Petite anecdote, la première fois que j'ai appris qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en Allah, j'étais choquée. Hein. Pour moi, il y avait juste des religions différentes, mais tout le monde croyait en un Dieu unique. Genre, pour moi, c'était un truc de fou. Donc, pour vous dire à quel point on m'a éduqué en parlant d'Allah. La prière chez moi, ça se faisait en groupe avec mes frères et sœurs, ma mère, mon père, qu'Allah les préserve, amin. Nos journées étaient rythmées en fonction de la salat. Je priais avec eux, pas forcément avec envie, mais plus par mimétisme, on va dire. En plus, je suis la dernière de la fratrie, donc je reproduisais beaucoup ce que faisaient mes aînés. Et arrivé au lycée, là, j'ai commencé à avoir des journées longues, vous savez, les 8h-17h, tu rentres, t'es fatiguée et tout. Et au lieu de prier, j'allais dormir parce qu'en fait, j'avais pas décrocher cet amour-là que j'avais envers la prière. C'était beaucoup du mimétisme, comme je vous ai dit. Et cette situation a duré un très long moment. Je n'étais pas fière de moi et ça me rongeait de l'intérieur. J'étais triste et vide et limite en déprime. Mais je gardais toujours le sourire et tout devant les personnes de ma famille ou mes proches, hein. Je voulais me confier à un membre de ma famille, mais c'était très dur pour moi parce que je culpabilisais. Je me disais, mais c'est la honte. Genre, depuis que t'es petite, on t'apprend à prier. Papa, il s'est donné pour nous transmettre tout ça. À la maison, tout le monde prie. Et toi, tu vas leur dire quoi? Genre que t'as la flemme. Et là, je me suis dit non. Je me suis renfermée sur moi-même. Et les seules fois où je priais, c'est en groupe avec mes parents. Mais la motivation n'était pas au rendez-vous. Et je me posais beaucoup de questions. Mais genre, Khadija, comment tu peux te proclamer musulmane sans prier? Genre, tu es hypocrite. Et pourtant, tous les jours, j'essayais de prier. Mais c'était un combat dans lequel j'étais perdante à chaque fois. Le même schéma se répétait. Je priais pendant 2 jours, puis rebelote. J'abandonnais à nouveau. Et là, j'étais désespérée. Je me pensais vraiment irrécupérable. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Et je me remettais, tout le temps la prière au lendemain. Et le shaitan, les waswas, en fait, ça ne m'aidait pas du tout. Tu sais, il me disait dans la tête, en gros, tu prieras plus tard, t'inquiète, t'es jeune, t'as encore le temps et tout. Mais malgré cela, je n'ai pas lâché l'affaire. J'ai persévéré avec endurance. J'avais peur, en fait. Peur que mes parents aillent en enfer à cause de moi, à cause du fait que je ne priais pas. Peur qu'Allah leur reproche de ne pas avoir accompli leur devoir de parents en m'apprenant la prière, alors que c'était moi la seule fautive dans l'histoire. Mes parents avaient tout fait pour m'inculquer la prière et ont toujours montré le bon exemple. Ils n'ont jamais lâché leur salat. Et après réflexion, je me suis levée, j'ai fait mes grandes ablutions, j'ai prié, j'ai fait la shahada et j'ai invoqué Allah comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Et je pense que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais invoqué Allah comme je l'avais fait là. Mmh. Je me suis confiée à lui, seule sur mon tapis. Je me suis repentie sincèrement. Je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai demandé de m'aider à ne plus jamais lâcher la salat jusqu'à mon dernier souffle de vie. Et alhamdoulilah, rabbil alamin. Depuis ce jour, je n'ai manqué aucun rendez-vous avec mon Seigneur. Allah répond bel et bien aux invocations de ses serviteurs. Une semaine après cela, j'ai été indisposée, donc je ne pouvais pas prier. Et j'ai eu très peur. Peur que cette coupure casse mon rythme. Mais non. Après avoir retrouvé ma pureté, j'ai continué la prière. Je n'ai pas abandonné comme les autres fois. Alhamdulillah, j'ai vu que j'ai été éprouvée par les actes d'adoration par mon Seigneur. Et je suis contente. Car je me dis que s'il ne m'avait pas éprouvée, j'aurais continué à prier par habitude, par mimétisme. Et non par envie et amour envers Allah. Cet amour a suscité chez moi l'envie de le connaître. Et là, c'était le début d'une magnifique histoire entre Allah et moi. Et donc, toi, ma sœur, ou mon frère d'ailleurs, qui nous écoute, parce qu'on a vu que des fois, il y a des frères qui nous écoutent. Mmh. Si toi, tu traverses cette situation, invoque et patiente avec endurance. Allah t'aime et prend cette épreuve pour te rapprocher de lui. Cela ne va pas être facile, mais le résultat est magnifique. N'oublie pas que la marchandise d'Allah vaut cher. Et la marchandise d'Allah n'est autre que le paradis éternel. Il va falloir faire beaucoup d'efforts, donc aie confiance. C'était une période extrêmement difficile. Et si à cette période, on m'avait dit que des années plus tard, j'allais faire un podcast en parlant de l'importance de la salade, j'aurais jamais cru. Non mais c'est surréaliste, ouais. Et comme quoi tout est possible. Il faut juste demander de l'aide à son Seigneur, faire les causes et revenir à lui repentant. Allah, c'est lui le pardonneur, le tout miséricordieux. Allah nous dit dans son noble Coran, sourate 2, verset 128.
Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min durriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alayna innaka antat tawwabur rahim.
Car c'est toi, certes, l'accueillant en repentir, le miséricordieux.
Barakallahu fiki, Khadija. Ça me fait penser, tu sais, à l'épisode 3, dans lequel on avait parlé des personnes éprouvées par les actes d'adoration. Et aujourd'hui, clairement, tu en es la preuve. Franchement, tu n'as pas lâché, tu as persévéré dans la salat. Et on remarque que rien n'est facile, en fait. C'est un combat contre soi-même, contre son âme.
Ouais, exact.
Et c'est ça. Et Allah n'abandonne pas ses serviteurs, il est là pour eux. Et quand on lui demande, il nous répond, il faut faire les causes et s'armer de patience, de courage, d'endurance et surtout de volonté. Et même à la sourate Al-Baqarah, au verset 186, Allah nous dit
« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit bien guidé.
Ouais, Allah nous dit tout, vraiment.
Ouais, absolument tout.
Et là, du coup, on va rajouter le témoignage d'une troisième personne. On pense que les témoignages sont importants parce qu'ils permettent aux personnes de s'identifier et de ne pas perdre espoir. Les témoignages qu'on vous livre ont toujours un bon dénouement, alhamdoulilah.
C'est ça.
Donc, c'est le témoignage d'une personne. Bon, ce sera anonyme. Mm-hmm. Je vais la narrer, la raconter un peu comme une histoire. Donc, voilà.
Mettez-vous dans la peau de ce personnage, du coup.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est parti. J'ai commencé la prière il y a quelques années. Avant ça, je ne posais quasiment jamais mon front au sol. Pourtant, je suis musulmane de naissance, je crois en Allah et son prophète et au jour du jugement dernier. Mes parents m'ont éduqué dans la religion. Ma famille est très pratiquante. Ma mère a été capitale dans mon apprentissage et l'inculcation de l'islam. C'est elle qui nous a beaucoup appris, nous a intéressés à l'islam d'une manière toujours douce et pédagogique. J'aimais ma religion profondément et mon éducation reflétait les valeurs de l'islam. La prière n'était pas encore obligatoire pour moi à cette époque, alors je priais rarement, pour les occasions, l'Aïd ou le Ramadan. Mais je savais pertinemment qu'une fois la puberté atteinte, elle deviendrait obligatoire pour moi. Mes parents ont décidé de déménager dans un pays musulman. Nous avons donc changé de vie, emménagé dans un pays où l'adhan retentissait 5 fois par jour, très fort en plus. La mosquée était presque collée à notre appartement. Je suis entrée au collège, eu des mauvaises fréquentations et ai complètement délaissé la religion, comme si tous les efforts qu'avaient fait mes parents n'avaient jamais existé. La prière est devenue obligatoire pour moi à l'âge de 13 ans. En réalité, à cette période-là, je voyais plus la puberté comme rendant obligatoire le jeûne. La prière, pour moi, c'était secondaire. Rares sont les fois où je priais, malgré le fait que mes parents me le rappelaient constamment. C'était devenu pour moi une corvée. La corvée, ce n'était pas de faire la prière, mais plutôt de faire semblant de faire la prière. Qu'Allah me pardonne. Malgré le fait que l'adhan retentissait, je ne priais pas. Mes oreilles étaient devenues lourdes, elles n'entendaient quasiment plus l'appel à la prière. Je faisais abstraction de cette religion, de cette obligation religieuse. Ma seule préoccupation était la vie d'ici-bas. À l'âge de 18 ans, je suis rentrée en France et rien ne s'arrangeait. Le délaissement était toujours aussi présent. Les seules fois où je priais sincèrement, c'est lorsque j'en avais besoin. Alors là, je me prosternais sans discuter. J'avais besoin d'Allah pendant mes examens. C'était quasiment les seuls moments où je priais. Parfois le soir, je ressentais une solitude et une tristesse extrême. Je culpabilisais de ne pas prier, mais paradoxalement, je ne faisais rien pour y être assidue. Alors chaque soir, je faisais la même promesse. Demain, je reprends la prière, mais rien n'y fait. Les soirs se répétaient, les promesses aussi, et l'attitude restait la même. J'avais comme une légère prise de conscience le soir tombé, sûrement parce qu'une fois les lumières éteintes, une fois le noir et le silence complet, l'âme a peur. Ce silence et cette obscurité nous renvoient à nous-mêmes, à nos accomplissements de la journée. C'est une solitude semblable à celle de la tombe qui fait parfois surgir nos regrets, nos remords et nos promesses non tenues. Il se pourrait que l'âme se rende compte une fois la nuit tombée qu'elle ne reviendra peut-être pas à la vie. Enfin bref, j'étais triste et j'essayais de réveiller mon cœur. J'écoutais du Coran le soir et y prêtais une oreille particulièrement attentive. Je voulais me voir pleurer à l'écoute du Coran. Je voulais réveiller mon cœur, me rassurer sur l'état de celui-ci, être sûr qu'il n'était pas complètement mort. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Parfois, le Coran ne suffisait pas. Je restais stoïque, aucune émotion. Alors, je regardais des vidéos de doa à la Mecque, où l'imam et les fidèles pleuraient. Pleuraient par crainte, par amour et par espoir. Je succombais à mes émotions. Moi aussi, j'aimais Allah. Moi aussi, j'avais peur de sa punition. Et moi aussi, j'avais espoir en sa miséricorde. Mais pourtant, je ne faisais rien. Quand le jour se levait, je reprenais ma vie comme si rien ne s'était déroulé la veille. À l'âge de 20 ans, 21 ans, j'avais comme fait le deuil de la prière, comme si jamais je n'arriverais à la porter dans mon cœur, à l'estimer à sa juste valeur. Pourtant, je rêvais du jour où je ne la lâcherais plus. Puis, à l'approche du Ramadan 2020, les choses ont fait que je me suis rapprochée de la religion. Entre autres, une amie avait créé une story sur Snapchat où elle proposait à son cercle d'amis proches de poster des rappels afin de se motiver pendant le Ramadan. Cette story m'a interpellée. Je me suis dit pourquoi ne pas faire profiter les autres de mes quelques connaissances. En rédigeant les posts que j'allais mettre, je me suis rendu compte que mes quelques connaissances étaient en réalité faibles. J'avais oublié plusieurs choses en même temps et je n'avais pas entretenu mon savoir religieux depuis des années. Je me suis donc rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose à ma religion, ni à mon Seigneur et ni à mon prophète. Pourtant, je voulais poster des rappels. Alors j'ai décidé de me mettre à apprendre pour transmettre. J'ai enchaîné les rappels, les sermons, les audios, je ne m'arrêtais plus. Je découvrais de jour en jour l'islam comme une personne qui venait de se reconvertir. L'une des premières vidéos que j'ai vues portait sur l'existence d'Allah. J'avais besoin de convaincre mon âme qu'elle existait. Car oui, je suis née musulmane, j'ai eu des cours de sciences islamiques étant plus jeune. J'ai eu une éducation religieuse, mais finalement je ne pratiquais pas. Je ne pratiquais pas parce que je connaissais que la forme. Il faut prier, jeûner, aller à la Mecque, faire des aumônes. Mais il me manquait la chose la plus importante, le tawhid. J'ai donc appris à connaître ma religion progressivement. Parallèlement, le Ramadan débutait et je m'étais fait une énième promesse. Je prierais l'entièreté du mois. L'objectif était vraiment d'essayer de prier tout un mois, seulement un mois complet pour commencer. Alors la veille du Ramadan, j'ai pris mon tapis et j'ai invoqué Allah en lui demandant de me faciliter l'accomplissement de la prière, l'assiduité, la constance. J'ai ressenti la prière pour l'une des premières fois de ma vie. J'ai ressenti le bonheur d'être prosterné, être proche d'Allah lors de la prosternation et de l'invocation. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais arrêté la prière. Elle est dans ma tête, elle ne me quitte plus. Je ne peux pas vivre sans elle.
Waouh ! Voilà la fin du témoignage.
Ouais, c'est...
On savait très bien qu'on allait le faire, ce témoignage, mais c'est toujours aussi en fait poignant de l'entendre et d'entendre Khadija le narrer parce que c'est...
On se met vraiment dans la peau du personnage et là on s'est dit que bah déjà d'une part elle parle de ses fréquentations, de son ami. Mm. Là si on regarde bien, ça part on va dire de son ami.
C'est ça.
Et le fait qu'elle a invoqué Allah.
Elle a invoqué.
La puissance des invocations, faut pas la négliger. Ouais. Donc,
Il y a tellement à soulever en fait sur son témoignage que c'est, elle parle du
tawhid. Là, on est prise par l'émotion, ouais, je dirais.
Elle parle du tawhid, un peu des fréquentations, comme tu as dit, des invocations. Et aussi, beau, le fait qu'elle a quand même grandi dans un entourage qui était assez musulman, religieux, spirituel, que ce soit par sa famille, de, lorsqu'elle a déménagé dans le pays musulman.
Elle a tombé 5 fois par jour. Mais en tout cas, bon, on va
qu'Allah la récompense en tout cas.
Amine, de nous avoir partagé ça. Et là, on va faire du coup une petite pause. Et on se dit à tout de suite pour la prochaine partie.